Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La mort d'un grand écrivain peut en cacher une autre, comme va nous le préciser Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Nous serons demain le 23 avril 2016, occasion de célébrer la mort de deux monstres sacrés de la littérature européenne, Shakespeare et Cervantes. Le grand homme des Anglais et celui des Espagnols, mort le même jour, en apparence du moins. Car si Miguel Cervantes est bien mort en avril 1616, sûrement pas le 23, puisque c'est la date de ses obsèques, mais enfin dans les jours qui ont précédé cette date, William Shakespeare, lui, a rendu l'âme le 23 avril 1616 du calendrier julien, qui à l'époque était encore en vigueur en Angleterre, il le sera jusqu'en 1572. Ce qui veut dire que, selon le calendrier grégorien déjà adopté à l'époque sur le continent, il a vécu encore jusqu'au 3 mai. Qu'importe, pour nous c'est l'occasion de vous parler un peu de Shakespeare avant que tout le monde ne se rue sur le sujet, et à l'occasion de l'apparition du beau dictionnaire amoureux de Shakespeare de François Larocque. C'est sa compagne qui est venue nous en parler, Sophie Chiari, elle enseigne la littérature anglaise à l'université de Clermont-Ferrand.
Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Florian sur l'origine de l'éclairage au gaz.
Oui, vous avez saisi, chère Ombline, la fine allusion à l'univers de Shakespeare, vous avez compris, non? Non, moi non plus, non. À vrai dire.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Les décennies passent, la façon de jouer Shakespeare, de l'interpréter, de le mettre en scène évolue plus ou moins, mais il est une chose qui demeure inchangée, l'extraordinaire fascination qui entoure l'œuvre profuse et protéiforme du barde, comme je disais tout à l'heure, comme on le surnomme affectueusement outre-Manche, au point que George Bernard Shaw ait pu parler, non sans humour, d'une envahissante bardolâtrie. Comme cette gloire immense se déverse sur la figure évanescente d'un personnage assez mal connu sur un plan historique, mal documenté, disent les historiens, il ne faut pas s'étonner que des doutes aient pu être émis à son propos. Et si Shakespeare, demandent certains, et si le plus grand écrivain de langue anglaise, l'un des plus fameux dramaturges de tous les temps, le plus joué jusqu'à nos jours, et si le barde, donc, n'avait pas écrit ses pièces? Eh oui, j'entends grogner certains d'entre vous, ça y est, se disent-ils, revoilà Ferrand avec ses énigmes littéraires, il nous a servi pendant des mois l'affaire Corneille-Molière, et bien maintenant il s'en prend à ce pauvre Shakespeare. La vérité, c'est que cette fois, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai levé ce lièvre, autant vous le dire, en Angleterre, aux États-Unis, d'une façon générale, dans tout le monde anglo-saxon, la polémique est aussi répandue que célèbre. Là-bas, on n'ose même plus poser la question, tellement elle est devenue un lieu commun de très célèbres auteurs, jusqu'à Mark Twain, mais oui, le père de Tom Sawyer, des auteurs comme Henry James lui-même, ou comme le père de la psychanalyse, Sigmund Freud. Tous ces auteurs se sont passionnés pour la polémique shakespearienne. C'est ainsi l'auteur immense des 37 pièces de théâtre. Alors il y a des pièces historiques et des tragédies bien sûr, mais aussi des comédies, des tragicomédies. Nous verrons ça dans un instant avec mon invité. L'auteur immense de ces pièces, l'auteur de ces succès aussi universels que peuvent l'être Roméo et Juliette, Macbeth, Hamlet, Le Roi Lear, Le Songe d'une nuit d'été, Le Marchand de Venise, Les Joyeuses Commères de Windsor, Richard III, Henri V, La Tempête. Bref, ce génie universel a été, est, sera sans doute encore longtemps contesté en tant qu'auteur de ses chefs-d'œuvre et de bien d'autres. William Shakespeare, laissez-moi vous le rappeler en un mot, est né à Stratford-upon-Avon, c'est ça quand même, ça se trouve pas très loin de Birmingham, on est en plein cœur de l'Angleterre. Il est né dans la famille d'un gantier maroquinier qui avait fait un beau mariage. Ce William, donc, est né probablement le 23 avril 64, en tout cas, encore une fois, dans la version anglaise des choses. Bref, ça veut dire que il est mort à 52 ans tout rond. Il n'a que 18 ans lorsqu'il met enceinte la jeune Anne Hathaway, qu'il épouse donc en catastrophe, et dans la foulée commence le fameux désert shakespearien. C'est l'expression de bien des biographes. En effet, c'est le premier grand mystère de ce personnage, on perd absolument sa trace pendant près d'une décennie. On le retrouve seulement devenu acteur de théâtre et semble-t-il auteur de drames en 1592, vous voyez qu'il faut quand même laisser passer quelques années, à Londres. Bientôt, il va faire partie de la troupe de Lord Chamberlain, qui a la haute main sur les divertissements de la reine Élisabeth. Et plus tard, le successeur de cette souveraine, le roi Jacques Ier, rachètera la compagnie qui devient les King's Men. Vous savez qu'à l'époque, en Angleterre, tous les rôles sont joués par des hommes. C'est le moment mythique de l'installation de la troupe au désormais célèbre, au légendaire théâtre du Globe, qui avec le temps va devenir en quelque sorte la Mecque de tous les comédiens, et ce, en tout temps. Shakespeare, après une fin de vie un petit peu agitée sur laquelle nous allons revenir, Shakespeare meurt en laissant derrière lui deux filles, deux héritières qui n'auront pas d'enfants, de sorte que le grand homme n'a pas de descendant direct, en tout cas biologiquement. Alors, cela posé, venons-en à ce qui nous préoccupe en cet après-midi d'anniversaire anticipé. La mise en cause de la paternité de Shakespeare sur les chefs-d'œuvre qui portent son nom est, disons-le tout de suite, une chose tardive. Ça ne remonte qu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, et c'est né tout ça non pas en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis. C'est là que se trouvent les premiers anti-Stratfordiens, c'est sous ce nom qu'on va se mettre à les désigner. À partir de 1857, naît en effet outre-Atlantique une école baconienne qui attribue la majeure part de l'œuvre du dénommé Shakespeare au grand écrivain Francis Bacon. À l'origine de cette idée baroque à première vue, la fille d'un pasteur de l'Ohio, qui s'appelle justement Delia Bacon, vous avouerez que ça tombe bien, d'ailleurs elle prétendait descendre de Sir Francis. La demoiselle est une amie de Samuel Morse, l'inventeur du code auquel il donnera son nom. Elle travaille avec lui sur la cryptographie et sa théorie, qui est publiée dans un ouvrage pompeusement intitulé « La philosophie des pièces de Shakespeare enfin révélée », cette théorie repose sur un cryptogramme, c'est-à-dire un texte à code caché dans un texte plus évident, en l'occurrence dans certaines des œuvres de Shakespeare. La vérité, c'est que Miss Bacon était un petit peu dérangée, il faut bien le dire. Elle sera d'ailleurs surprise de nuit dans l'église de la Sainte Trinité de Stratford en train de tenter d'ouvrir la tombe de Shakespeare. Ça fait pas très bon effet. Son but était d'essayer de trouver la preuve définitive de tout ce qu'elle avait pu dire et écrire depuis des années. Finalement, elle sera internée dans un asile où elle mourra, 2 ans plus tard, à 48 ans. Elle aura tout de même eu le temps de rameuter autour de sa thèse un certain nombre de sommités. Henry James, donc, dont je vous parlais, mais aussi Emerson, par exemple. Bref, tout un cénacle romantique ou plutôt post-romantique. L'association des Amis de Bacon publiera plus de 250 numéros d'une revue qui, point par point, défend, développe des arguments en faveur de Francis Bacon. La littérature sur le sujet va devenir tellement abondante qu'en 1882, on va jusqu'à publier une bibliographie de la controverse.
Sur Europe 1, concerto en ré mineur, BWV 52 de Jean-Sébastien Bach. Quand la paternité des œuvres de Shakespeare est mise en doute, Franck Ferrand, vous soulevez cet après-midi la question de l'identité du grand écrivain anglais.
Oui, alors les anti-Stratfordiens sont tellement déterminés, tellement organisés, que leur volonté de décryptage va prendre à la Belle Époque une dimension phénoménale. Dites-vous, par exemple, qu'un certain Dr. Owen ira jusqu'à mettre au point toute une machine à décoder Shakespeare, figurez-vous. Machine grâce à laquelle il prétendait démontrer que tout le corpus shakespearien contenait, caché au regard profane, la biographie complète de Francis Bacon. Bacon qui, en vérité, aurait été, disait ce monsieur, le fils caché de la reine Élisabeth et de son célèbre favori Robert Dudley. Vous voyez qu'on va loin. Ah oui, je sais, ça n'inspire pas tellement confiance tout ça, mais bon. La piste Bacon est non seulement la première des théories anti-stratfordiennes, mais elle est la plus fournie en contributions. La plus célèbre de ces contributions, à l'évidence, c'est celle de Mark Twain, en personne, qui, dans un ouvrage récemment publié en France, chez le Castor Astral, s'essaie lui aussi à la cryptographie, ou plus exactement, au déchiffrage de cryptogrammes. Mais autant vous prévenir, avant d'aller plus loin, cette piste est loin d'être la seule qu'aient suivi les amateurs de mystères littéraires. Évidemment, il serait un peu illusoire cet après-midi de prétendre vous présenter toutes les théories bâties au fil des ans. Dites-vous qu'au total, on aura attribué les pièces de Shakespeare à près de 80 auteurs différents, ces théories étant plus ou moins convaincantes, naturellement, et la plupart, à mon sens, ne le sont pas du tout. Par exemple, toujours à la Belle Époque, un député socialiste belge, professeur à l'Université Nouvelle de Bruxelles, il s'appelait Célestin d'Amblon. Monsieur d'Amblon affirme avoir la preuve que l'auteur des grandes pièces signées Shakespeare serait en fait Lord Rutland, un personnage très brillant, raffiné, cultivé, dont le parcours biographique correspondrait, c'est vrai, de manière idoine à la production des différentes pièces. Enfin, une partie du parcours, parce que au moment de la rédaction de la première, du début de Henri VI, Rutland n'avait que 13 ans. Comme diraient les compatriotes de William, no comment. En France, l'un de nos grands profs de littérature de l'entre-deux-guerres, qui était archiviste au Collège de France, fait paraître en 1918 un ouvrage qui va faire beaucoup de bruit, sous le masque de William Shakespeare, William Stanley, sixième comte de Derby. Eh bien voilà maintenant le comte de Derby dans la course, si j'ose dire. À peu près à la même époque, un ancien instituteur anglais, John Thomas Looney, publie « Shakespeare identifié », un ouvrage très inspiré, peut-être même un peu illuminé, où cette fois, sous le masque de Shakespeare, se cacherait Edward de Vere, le comte d'Oxford. Oxford était un proche de la reine Élisabeth. C'était comme Derby, un grand seigneur très raffiné, c'était un poète de talent. Il avait 14 ans de plus que Shakespeare, et du reste, il est mort 12 ans avant lui. Mais dans ce cas, me direz-vous, comment expliquer la parution forcément posthume de toutes les dernières pièces signées Shakespeare? Eh bien, les défenseurs de la thèse de Looney, on les appelle en Grande-Bretagne les Oxfordiens, expliquent que le génial et secret dramaturge aurait laissé en mourant tout un stock d'œuvres inédites et que le bon William n'aurait eu ensuite, bon an mal an, qu'à les mettre l'une après l'autre sur le théâtre. Même si tout ça paraît un peu tiré par les cheveux, c'est quand même la thèse que Sigmund Freud en personne va soutenir à partir du milieu des années 20, après avoir, il est vrai, suivi mordicus la filière baconienne. Plus récemment, en 1984, la théorie oxfordienne est relancée vigoureusement par le livre d'un journaliste américain qui s'appelle Carlton Ogburn. Ce livre est intitulé « Le mystérieux William Shakespeare, mythe et réalité ». Et à la suite de cette publication, on va organiser une sorte de, comment on pourrait dire, c'est très anglais ça, une sorte de tribunal d'arbitrage, si vous voulez, qui se réunit à Londres, composé de sommités shakespeariennes, et qui va, en présence de Monsieur Ogburn, trancher en faveur de la paternité de William Shakespeare sur ses pièces, ce qui n'a pas pour autant convaincu tous les Oxfordiens, je m'empresse de le dire. Et d'ailleurs, encore plus près de nous, c'est cette piste d'Edward de Vere qu'ont retenu et suivi les scénaristes d'un film de Roland Emmerich, Anonymous, dont nous avons parlé à ce même micro il y a quelques années. Et c'est aussi celle qu'a empruntée la romancière Brunhilde Johannic dans son ouvrage « Shakespeare, c'est moi » et sous-titré « La confession d'Edward de Vere ». Tant il est vrai que le mystère artistiquement est toujours plus fécond que la démystification. Alors pour être honnête, je dois vous dire que depuis le début, nombreux sont les spécialistes que toutes ces théories laissent sceptiques, pour le moins. Voici par exemple ce qu'écrivait en 1924 dans une revue très savante, George Cohn. Il nous disait « J'ai donné un an de ma vie à l'étude de cette controverse, dont je me suis convaincu qu'elle est vaine. C'est beaucoup, c'est trop. » Et je jure de n'y plus consacrer une minute de plus. Et il ajoutait, quand on n'a lu que les Baconiens, on peut croire à Bacon, que d'Amblon à Rutland, que le Franc à Derby, que Looney à Oxford. Mais quand on les a tous lus, on ne peut plus croire à personne qu'à Shakespeare, disait-il. Cette conclusion désabusée n'est cependant pas partagée par tout le monde et, après Looney, bien d'autres thèses seront encore émises. Par exemple, en 1955, l'américain Kelvin Hoffman a prétendu que l'auteur des pièces de Shakespeare était Marlowe. Marlowe, vous savez, le dramaturge élisabétain, par ailleurs très connu. Beaucoup plus près de nous, en 2007, Brenda James et William Rubinstein ont cru pouvoir affirmer que le véritable auteur était un diplomate et parlementaire Sir Henry Neville, et dans la foulée, on aurait d'ailleurs découvert de nouvelles œuvres potentiellement écrites par Neville et signées de Shakespeare. La découverte est récente, là en l'occurrence, puisqu'elle a moins de 5 ans. Alors, Parmi les prétendants au trône des lettres anglaises, si j'ose dire, trône de papier, plus enviable à tout prix, à tout prendre, pardon, que bien d'autres, parmi tous ces prétendants, celui qui me paraît le plus intéressant s'appelle John Florio. Nous y venons dans une minute.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les anti-Stratfordiens, les Oxfordiens et les autres sont au cœur de l'histoire. Vous nous parlez, Franck Ferrand, de ceux qui doutent de la paternité des œuvres de William Shakespeare.
Et oui, puisqu'on va bientôt célébrer, je dis on va bientôt, la date officielle, c'est le 23 avril, c'est donc demain. Mais encore une fois, je dis ça pour les gens qui nous rejoindraient en route, c'est la date du calendrier julien. Dans le calendrier grégorien, c'est le 3 mai en fait, hein, l'anniversaire de la mort, des 400 ans de la mort de William Shakespeare. Alors là, nous parlons bien du William Shakespeare, né à Stratford-upon-Avon, hein, bien sûr, pas de tous ceux qui ont pu prétendre à la paternité de ses œuvres. Et parmi eux, ce John Florio, dont je vous parlais. Nombreux sont les auteurs qui ont pris fait et cause pour ce linguiste avant l'heure, lexicographe, traducteur en anglais de Montaigne, auteur d'un dictionnaire anglo-italien et qui, né en 1553, donc une bonne décennie avant William, n'a trouvé la mort qu'en 1625, donc près d'une décennie après lui. Son nom souligne ses origines italiennes, qui rattacheraient dès lors le répertoire qui nous intéresse à une littérature bien plus ancienne et expliquerait d'une certaine manière la tonalité italique de plusieurs des œuvres de Shakespeare. On y viendra tout à l'heure, bien sûr. Le plus récent avocat de Florio, si j'ose ce jeu de mots crypté, comprenne qui pourra, est un philosophe canadien connu des auditeurs de Radio-Canada, c'est Lamberto Tassinari. Son ouvrage John Florio alias Shakespeare fait énormément parler de lui en ce moment. Il vient tout juste d'être publié en France et le moins qu'on puisse dire est qu'il tranche par sa précision, par sa modération, par sa pertinence à bien des égards sur la littérature dont nous avons parlé depuis le début de cette émission. Irais-je jusqu'à reconnaître que je suis ressorti un peu troublé de sa lecture. John Florio, donc, qui était cet illustre inconnu? Le fils d'un immigré italien, juif converti, devenu calviniste, et qui lui-même, John, était versé dans l'étude des langues et des mythes de l'Europe, un esprit donc cultivé, humaniste, propriétaire d'une bibliothèque immense, introduit dans plusieurs cours d'Europe, il a même travaillé pour l'ambassade de France à Londres, musicien à 16 heures, très grand connaisseur de la Bible, bref, un littérateur d'envergure, à la hauteur de l'inspiration universaliste du grand œuvre shakespearien. Lorsque Lamberto Tassinari nous dit que La Tempête, par exemple, sublime allégorie de l'exil et apologie de la fantasmagorie comme consolation, que La Tempête a plus de chances d'être sortie de l'esprit vaste, complexe et averti d'un Florio que, nous dit-il, du cerveau du modeste bourgeois William circulant à grand-peine entre Londres et Stratford, bien, je vous avoue qu'on a du mal à ne pas se demander si après tout, et si, va jusqu'à demander Tassinari, et si les singularités de la langue de Shakespeare, qui ont été très souvent soulignées par les exégètes, mais jamais expliquées, et si ces singularités étaient liées tout simplement à l'origine étrangère de leur auteur. Je ne vois pas grand-chose à répliquer à tout ça. Je me dis en tout cas que si les grands auteurs que j'ai cités tout à l'heure, de James à Freud, mais il faudrait ajouter Dickens, Walt Whitman, vous imaginez le grand poète Walt Whitman, et même Charlie Chaplin dans un autre registre, si tous ces esprits supérieurs qui étaient, eux, absolument convaincus que Shakespeare n'était pas l'auteur de ses œuvres, avaient eu vent à l'époque de l'hypothèse Florio, ils s'y seraient peut-être ralliés. Enfin, on ne peut pas leur prêter des intentions qu'après tout, ils n'ont pas eues. Vous savez que deux des plus grands acteurs shakespeariens, je pense à John Gielgud et à Derek Jacobi, ont répété qu'ils ne croyaient pas que William Shakespeare ait pu écrire les pièces présentées à Londres sous son nom. Et bien alors, l'hypothèse Florio, dans ce cas-là, pourrait être une solution. Bon. La recherche du véritable auteur des pièces signées Shakespeare est devenue une sorte de hobby pour les érudits et pour les amoureux de théâtre dans le monde anglo-saxon. Comme toujours, la France regarde tout ça d'un peu haut. Notre pays est celui où cette espèce de sport est le moins pratiqué, il faut bien le dire. Ce doit être notre vieux fond de cartésianisme qui regimbe devant tant de fantaisie. Mais s'il fallait donc, parmi toutes les pistes que j'ai simplement esquissées depuis le début de cette émission, il y en a tant et tant d'autres, hein, s'il fallait en choisir une, vous aurez compris que moi je choisirais la plus récente, là, celle de Floriot. Je vous rappelle le titre du captivant ouvrage de Tassinari, John Floriot, alias Shakespeare, c'est aux éditions du Bord de l'Eau. Bonjour Sophie Chiari.
Bonjour.
Alors c'est une énigme bien entendu, donc moi je suis très féru d'énigmes et j'en ai fait le récit de cette émission. Nous allons avec vous dans un instant dépasser ce cadre-là et revenir à ce qui compte somme toute, c'est-à-dire cette œuvre monumentale, universelle, impérissable, l'œuvre de Shakespeare.
Extrait du générique télé, la musique de la série Les Tudors sur Europe 1. William Shakespeare est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, Sophie Chiari, professeure de littérature anglaise à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Alors Sophie Chiari, quand même un mot de toutes ces thèses qui passionnent évidemment François Larocque. Il s'en fait l'écho dans son dictionnaire amoureux de Shakespeare. Il a même consacré avec Dominique Guabanquet un ouvrage qui s'appelle Shakespeare, combien de prétendants ? Il semble qu'on soit 78 prétendants actuellement.
Oui absolument, il y avait eu 77 prétendants jusqu'à présent et Floriot est le 78e.
C'est ça. Alors ce 78e, on l'aura compris, moi il me convainc pas mal, c'est vrai. Il faut reconnaître en tout cas que les coïncidences sont très grandes et que, d'une façon tout à fait objective et historique, l'influence de Floriot sur l'univers shakespearien est avérée. Ça on ne peut pas dire le contraire, via Montaigne en fait.
Absolument, hein. Absolument. L'influence de Floriot est réelle via Montaigne. On sait par exemple que lorsqu'il a composé La Tempête, Shakespeare s'est énormément inspiré des essais. Et puis l'un des personnages principaux s'appelle quand même Caliban, qui est l'anagramme de Cannibal. Donc c'est un hommage bien sûr à ses essais, mais La Tempête n'est pas la seule pièce.
Non,
on peut
sûr.
Aussi parler de King Lear, de Mesure pour mesure, d'autres pièces. Et certains spécialistes pensent même que Shakespeare aurait pu lire la version manuscrite de la traduction des essais avant sa publication en 1603.
Alors, comment vient la passion pour Shakespeare ? Dans le cas de François Larocque, c'est magnifique parce qu'il le raconte. Hein. Il est devant sa télévision, il assiste à une dramatique, comme on disait à l'époque. On est au milieu des années 1960. Et la puissance, la violence des propos, les rebondissements théâtraux, ce qu'il y a quasiment d'indomptable dans cette œuvre, le saisit tout gamin et ne le quittera plus. Je pense que très nombreux sont ceux qui ont fait cette expérience-là. On est en présence de Shakespeare, devant quelque chose de tout à fait incernable, d'immense, et qui nous dépasse tous.
Absolument, vous avez parlé tout à l'heure du mystère Shakespeare. C'est vrai que c'est cette part de mystère, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer qui nous séduit, qui nous attire. Et bon, la télévision, en l'occurrence, est un formidable moyen de populariser l'œuvre shakespearienne, bien sûr, le cinéma également. Mais c'est vrai que quand on le rencontre, on ne le quitte plus. Moi, en ce qui me concerne, c'était plutôt lors de mes années de lycéenne. Et je me souviens qu'on avait étudié Macbeth et la puissance du verbe, en fait, m'avait
qui est étonnant,
véritablement habité.
Alors, cette puissance du verbe, soyons tout à fait honnêtes, nous, je ne parle pas de vous dont c'est le métier, mais nous autres francophones purs, si je puis dire, avec des notions d'anglais un peu flottantes, nous ne pouvons pas tout à fait l'appréhender. Parce que ce verbe-là, il est beaucoup plus fort en anglais, car il teinte complètement la langue, il lui donne une dimension légèrement déséquilibrée, un peu rappeuse, il y a quelque chose d'un peu indéfinissable comme ça dans le style de Shakespeare, qui n'est perceptible que dans le style original. Les traductions sont impuissantes à le rendre.
Oui, absolument. Alors cela dit, il faut rendre hommage à tous les traducteurs de Shakespeare, bien sûr, parce que grâce à eux, nous pouvons le lire. Mais effectivement, traduire, c'est toujours perdre.
Eh oui, bien sûr.
C'est un peu l'art de négocier les pertes, finalement. Donc, il y a une formidable entreprise qui est celle de la Pléiade, là, de Jean-Michel Desprats, qui nous permet quand même d'appréhender au plus près le verbe shakespearien. Mais la langue shakespearienne a cette particularité qui est qu'on a à la fois le registre saxon, germanique, avec des monosyllabes, et puis un registre latin avec... par exemple, on pourrait avoir freedom, liberty, Donc quelque chose de beaucoup plus rond, des mots beaucoup plus longs.
Des mots romains, des mots latins, oui, c'est
exactement.
Vrai.
Et
même une scansion hellénique, semble-t-il,
absolument.
Sur laquelle insistait beaucoup Sir Laurence Olivier, par exemple. Je n'ai pas fait cette expérience, mais il paraît qu'il faut écouter, parce que ça existe en DVD,
oui.
Mais on peut même fermer les yeux et écouter simplement, on n'est pas obligé de tout comprendre, loin de là d'ailleurs, mais au moins écouter cette musique dans la voix de Laurence Olivier ou dans la voix de Kenneth Branagh, plus récemment d'ailleurs, ça prend une dimension qui est presque musical, disons-le.
Et c'est Yves Bonnefoy qui dit qu'il faut écouter Shakespeare les yeux fermés.
Il est normal que Shakespeare rebute un certain nombre de spectateurs et d'ailleurs aussi d'auteurs. Hein. J'avais fait une liste ce matin, je ne l'ai pas reprise là, mais une liste des grands auteurs qui disaient qu'ils détestaient Shakespeare. Donc ça existe quand même.
Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais je crois qu'on a une tradition française qui est celle qui consiste à intellectualiser beaucoup. Voilà, le théâtre de Shakespeare, alors que c'était un théâtre qui s'adressait à un public populaire, bien sûr aussi aux lettrés, aux aristocrates qui étaient là, qui venaient au théâtre. Mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier cette dimension qui est très très présente.
Alors nous allons bien sûr entrer dans le détail des pièces, dans cet univers shakespearien tellement onirique, tellement puissant, riche, historique aussi. Après tout, nous faisons une émission d'histoire et Shakespeare se considérait, quand je dis Shakespeare, sans, encore une fois, sans du tout présager de l'auteur réel, on va l'appeler Shakespeare, hein, de toute façon, c'est incontestablement l'œuvre de Shakespeare. Donc après, est-ce que c'est William Shakespeare lui-même qui a écrit ça? Moi, je ne me prononce pas sur le sujet. En tout cas, il se considérait, celui qui écrivait ça, aussi comme un historien. Il y a de véritables leçons d'histoire dans Shakespeare. Mais avant cela, un mot peut-être des conditions de jeu et de représentation dans ce célébrissime théâtre du Globe. On a beaucoup dit ça, mais ça nous fait rêver quand même. Rien que pour le plaisir, à quoi ça ressemblait?
Oh, alors évidemment, c'est un lieu où tout est permis. C'est magnifique pour les acteurs. D'ailleurs, quand on va à Londres aujourd'hui, hein, on peut aller au Globe et les conditions
bien
sont
sûr,
assez
oui.
semblables.
C'est très modernisé, hein, quand
alors,
même.
Alors, bien sûr, c'est modernisé. Les Anglais savent très bien faire. Mais ça a beaucoup de succès. Et quand même, l'essentiel est préservé. On a un théâtre à ciel ouvert au sud de la Tamise, puisque à l'époque, il faut bien voir que les acteurs n'étaient pas les bienvenus à Londres. Hein, donc, on a installé ces théâtres dans un espace qui est celui des Liberties, pour qu'ils échappent un petit peu aux autorités de la cité. Et c'était des lieux interlopes, on peut le dire.
Il y avait des détrousseurs, il y avait de tout. Des dames de petite vertu.
Voilà.
Et puis un public qui se renouvelle parfois deux fois dans la journée. C'est-à-dire qu'on donnait des représentations sur un rythme qui n'est pas du tout nos rythmes modernes.
Alors effectivement, aujourd'hui, par exemple, on va répéter pendant des mois une pièce avant de pouvoir la monter. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Il y avait vraiment une très très forte demande du public. Il fallait changer tout le temps. Ce qui a une influence aussi sur la pratique de l'écriture théâtrale. Par exemple, la pratique d'une écriture collaborative.
Mm-hmm.
Puisqu'il faut arriver absolument à trouver
de
l'inspiration,
fournir, bien sûr.
Très très rapidement.
Ça c'est très important et c'est un des aspects qu'on a tendance à oublier. Mais ne m'entraînez pas sur des terrains glissants. Puisque nous parlons des sites shakespeariens, Andrea nous dit qu'elle a visité l'été dernier la demeure et les superbes jardins de l'épouse de William Shakespeare à Stratford-upon-Avon sous un soleil radieux. C'est tellement bien entretenu, dit-elle, un enchantement. Et Eugénie ajoute qu'à l'intérieur même de cette maison de Shakespeare, on n'hésite pas à vendre toutes sortes d'ouvrages sur la remise en cause de la paternité justement de William Shakespeare sur ses œuvres, ce qui démontre entre parenthèses non seulement l'ouverture d'esprit des Anglais, mais leur goût pour ce genre de polémique, ce qui en fait des gens très différents des Français. On n'imaginerait pas ça en France, évidemment.
Absolument, parce que finalement, ça fait vivre Shakespeare.
Mais oui, voilà, c'est ça, exactement.
Voilà.
Alors, ce qui fait surtout vivre Shakespeare, ce sont toutes ces pièces extraordinaires qu'il nous a laissées. Commençons, si vous le voulez, peut-être par les pièces historiques,
oui.
où il nous donne quasiment un cours d'histoire. The audience is listening. On ouvre le rideau, si j'ose dire, parce qu'à l'époque, c'est pas un rideau, peu importe, et l'on est carrément sur le champ de bataille, dans le conseil du roi. Enfin, c'est extraordinaire.
Oui, c'est d'autant plus extraordinaire qu'effectivement, lors de ces scènes de bataille, vous imaginez le nombre de figurants qu'il faudrait sur la scène. C'est absolument pas possible. Hein. Une troupe théâtrale, c'est 12, 13, 14 personnes. Et donc, dans un théâtre, par exemple, comme celui du Globe, c'est le public qui fait office de figurant. Donc, les comédiens s'adressent directement comme ça au public. Il y a une proximité qu'on ne retrouve pas dans les théâtres à l'italienne que nous connaissons en France. Mais effectivement, ces pièces historiques nous entraînent dans un passé qui est un passé fantasmé, il faut quand même bien le dire, puisque vous avez parlé d'histoire, et c'est aussi une réécriture de l'histoire avec les deux tétralogies, par exemple.
Ah, il faut les expliquer, il faut dire qui sont les grands personnages, bien entendu.
Shakespeare a écrit deux grandes tétralogies. La première tétralogie dans les années 1590, alors elle couvre une période qui va de 1422 à 1485. Et cette première tétralogie, elle commence à la mort d'Henri V, hein, ce roi guerrier, on se souvient d'Azincourt.
Azincourt et le honteux traité de Troyes, n'est-ce pas ? À l'époque, le roi de France, c'est Charles VI, qui est un roi fou, en fait.
Ça, c'est pas très glorieux pour nous, hein, de toute façon. La représentation des Français
caricaturale,
dans le cadre de Shakespeare, nous ne sommes pas mis à l'honneur. Les Français sont toujours un petit peu ridicules.
Oui, oui.
Voilà,
très pompeux, très sûr d'eux.
Exactement, exactement. Donc, je pense que ça devait faire beaucoup rire l'auditoire. Et donc, dans cette première tétralogie, finalement, on commence avec la première partie d'Henri VI, où, bien sûr, on a des scènes mémorables avec Jeanne d'Arc, que Shakespeare dépeint tout d'abord comme une prophétesse et puis ensuite comme une sorcière. Avec un jeu de mots sur la pucelle, puzzle, qui est aussi la putain, en anglais. Il nous amène ensuite dans la deuxième partie d'Henri VI avec la révolte de Jack Cade. Hein, François Larocque parle de carnaval sanglant. Et c'est vrai que dans cette deuxième partie, on voit à la fois cette jacquerie et puis l'effervescence politique qui agite l'Angleterre. Et puis dans la troisième partie d'Henri VI, on assiste à l'ascension du terrible roi Richard III, qui va faire d'ailleurs assassiner Henri VI dans la Tour de Londres. Et cette première tétralogie se termine par le règne sanglant de Richard III. Alors la pièce commence avec l'enterrement furtif de Henri VI. Et donc on assiste à ce règne sanglant, tyrannique. Et puis tout cela se conclut avec la bataille de Bosworth en 1485.
Alors il y a, il faudrait parler de toutes ces pièces de Richard III, etc., qui sont en quelque sorte en même temps des pièces psychologiques où on va très loin dans la description de la psychologie du tyran, d'une certaine manière. Bon, mais il y a un personnage qu'il faut mettre en exergue, c'est Falstaff. Personnage, comment pourrait-on dire, un personnage bouffe au milieu d'un sujet tragique.
Absolument. Falstaff est l'une des grandes créations shakespeariennes. Alors là, on est dans la deuxième tétralogie. Mm-hmm. Shakespeare remonte dans l'histoire, mais cette deuxième tétralogie, elle est écrite un petit peu après la première. Donc là, on est plutôt dans les années 1596, 97, 98. Et au cœur de cette deuxième tétralogie, il y a ce personnage de Falstaff qu'on retrouve beaucoup dans la première partie d'Henri IV, dans la deuxième partie d'Henri IV, et on raconte sa mort dans Henri V. C'est vraiment un personnage truculent, que ce Sir John, qui va faire l'éloge du vin, d'ailleurs. On pense à la Dive Bouteille, c'est très très rabelaisien tout ça. Et c'est un personnage qui continue d'ailleurs à nous fasciner. Par exemple, le titre français du film d'Orson Welles, c'est Falstaff. Et c'est vrai qu'Orson Welles avait vraiment une tendresse particulière pour ce personnage, donc qui est l'incarnation.
Une forme d'identification quasiment.
Ah oui, tout à fait. Parce que c'est l'esprit de carnaval. Il incarne le manger, le boire. Il a un sens de la répartie. Et en même temps, c'est un lâche.
Peut-être. Oui, la vie avec ses bons et ses mauvais côtés.
Absolument, avec ses faiblesses. Il fait quand même le mort sur le champ de bataille. Voilà, pour pas se faire tuer. Et malgré tout, il a ce sens de la répartie. Est absolument extraordinaire. On en a fait un petit peu un représentant du vice des moralités Tudor, par exemple. Mais c'est aussi, de manière un petit peu plus sérieuse, un substitut sacrificiel du roi. C'est-à-dire que Henri V, pour régner, doit se séparer de Falstaff. Il doit le renier.
Il doit devenir le souverain, il doit devenir adulte et il l'exclut de son environnement.
Il renie son éducation faite dans les tavernes, finalement, pour pouvoir monter sur le trône. Et donc, ce moment-là est extrêmement pathétique.
Alors, on est, avec ces pièces historiques, en présence d'une connaissance intime par Shakespeare de la nature humaine, de la nature du pouvoir. C'est une analyse très poussée sur le pouvoir, etc. Il y a d'autres pièces qui ont une dimension historique. On peut penser alors à Jules César, bien entendu, c'est peut-être la pièce la plus célèbre. Évidemment à Antoine et Cléopâtre. Mais là, on est déjà dans une version mythifiée avec Antoine et Cléopâtre notamment. On entre dans la tragédie en quelque sorte.
Voilà, c'est ça. C'est le passage de l'histoire à la tragédie. Shakespeare a écrit 10 grandes pièces historiques. Il a écrit aussi 10 tragédies. Il a écrit un petit peu plus de comédies. Et c'est vrai que là, il puise dans d'autres sources d'inspiration, puisqu'on sait que Shakespeare en fait ne créait pas comme ça ex nihilo, mais il puisait dans des récits, dans des chroniques. Alors tout à l'heure, on a parlé des pièces historiques. Là, il puise dans des chroniques historiques. Et en revanche, pour ce qui est d'Antoine et Cléopâtre, il va puiser dans Plutarque. Puisque l'époque élisabéthaine, c'est la grande période de la traduction, c'est l'âge d'or de la traduction. Plutarque a été traduit d'abord en français par Amyot, et puis un Anglais va reprendre cette traduction, il va traduire à partir du français. Et donc, finalement, Shakespeare va s'inspirer de Plutarque pour en faire une version dramatique.
Shakespeare suit d'assez près le texte de Plutarque, frôlant même le plagiat dans l'époustouflant récit en forme de flashback de l'arrivée de Cléopâtre sur le fleuve Cydnus lors de la première rencontre avec Marc-Antoine, écrit justement François Larocque dans son dictionnaire amoureux de Shakespeare. Mais le dramaturge taille dans la masse des événements pour rendre le récit plus clair et plus poignant. Multipliant les angles de vue, il brosse un portrait des deux protagoniste qui acquiert une dimension de complexité paradoxale, s'éloignant ainsi du diagnostic de Plutarque qui fait d'Antoine la victime d'une femme et d'une passion fatale. C'est beaucoup plus subtil d'une certaine manière chez Shakespeare.
Absolument.
Vous dites qu'il y a des tragédies, on pourrait presque dire qu'il y a aussi un peu du Grand Guignol chez Shakespeare, en tout cas dans les débuts, dans les premières œuvres. Je pense moi...
Mais voilà.
Ça c'est quand même...
Oui.
J'ai le souvenir d'une représentation de Titus Andronicus il y a 20 ou 25 ans qui m'avait laissé complètement écœuré sur mon siège au théâtre. J'avais l'impression d'avoir bu des litres de sang, pardon, mais c'est quand même assez extravagant.
C'est très difficile à regarder de nos jours. Alors bon, ça dépend un petit peu de la mise en scène.
Oui, c'est vrai,
bien
la mise en scène était un peu arbre.
Voilà. Voilà. Mais il y a une tradition quand même à l'époque. Je crois qu'on a un petit peu oublié ça parce que, bon, d'abord, on a une image un peu romantique de Shakespeare, ce qu'il n'était pas. Et puis, bon, il y a l'époque victorienne qui est passée par là. Il faut bien voir que le XVIe siècle est un siècle qui aime le théâtre de la vengeance, par exemple. Hamlet, c'est un exemple de théâtre de vengeance, et qui aime aussi la violence. Donc, c'est très sanglant.
Et Shakespeare, lui, paraît avoir une prédilection pour la folie, bien entendu, qu'il décrit tellement bien dans Le Roi Lear, notamment, mais ailleurs aussi. On va parler des grandes pièces hallucinées de Shakespeare, d'une certaine manière, et puis aussi, ne l'oublions pas, de ces comédies auxquelles les Anglais sont peut-être plus attachés que nous.
Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1.
Revenons-en à William Shakespeare qui est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous recevez Franck Ferrand, Sophie Chiari, professeur de littérature anglaise à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand.
Alors bien sûr, il y a dans Shakespeare, il y a Othello, il y a Hamlet, Macbeth, enfin toutes ces grandes tragédies qu'on a tendance à voir un peu de l'extérieur et qu'il faut vivre. Ça, c'est et qu'on peut lire vraiment. N'oublions jamais
ça. C'est une expérience théâtrale. Shakespeare, de toute manière, écrivait pour la scène. Et c'est vrai que ça, c'est une grande différence avec le théâtre aujourd'hui, les dramaturges pensent à la publication.
Bien sûr. À la limite, on a presque envie de dire qu'ils écrivent plus qu'ils ne mettent sur le théâtre. À l'époque, on est vraiment au service d'une représentation. Bon, alors, ça sont les tragédies, etc. Mais Shakespeare, ce sont aussi des comédies. Et vous travaillez, vous, notamment, sur As You Like It, Comme il vous plaira, qui est une comédie tout à fait charmante de Shakespeare. Sophie Chiari.
Absolument, oui. C'est une comédie dont le succès ne s'est jamais démenti. Et c'est une comédie du du monde vert, hein, parce que le monde pastoral est très important chez Shakespeare. On parlait tout à l'heure du roi Lear, qui est le monde de l'anti-pastoral, avec cette lande battue par les vents, ces orages d'une violence inouïe. Dans ses comédies, il explore ce monde vert, et notamment dans As You Like It, dans Comme il vous plaira, où il oppose au monde de la cour le monde de la forêt, qui est bien sûr hérité de la pastorale, et là encore il puise allègrement dans ses sources, Lodge par exemple pour As You Like It. Et finalement, ce monde vert, c'est un monde de liberté.
Il y a quelque chose de biblique aussi, d'ailleurs, incontestablement.
Oui, absolument. On pense aussi à un monde un petit peu paradisiaque, mais c'est un peu trompeur, parce que quand on lit Shakespeare, on s'aperçoit que finalement, ce qu'il nous dit, c'est que ce paradis est perdu, que le véritable paradis, ça n'est pas ce qu'on croit. Donc, même dans ce monde vert, la notion de péché, de luxure, c'est présent.
Puisque vous parlez de forêt, de monde vert, on ne peut pas ne pas songer au songe d'une nuit d'été, bien entendu, qui est l'appel de la forêt, d'une certaine manière.
Absolument, oui, c'est l'appel de la forêt. Et puis, c'est aussi une merveilleuse comédie qui peut être décryptée, interprétée à tous les niveaux. C'est vrai qu'on peut la montrer, par exemple, à des enfants. Et on a aussi beaucoup, beaucoup de plaisir à la voir étant adulte.
On est un peu chez Boccace, là. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure d'une inspiration italienne. On n'aura sûrement pas le temps d'y venir dans le cadre de cette émission. Mais il y a ça aussi chez Shakespeare. On est bien sûr toujours dans cet angle Angleterre qu'il sait mettre en avant. Mais on peut aussi se trouver dans un monde plus antiquisant et plus italianisant, d'une certaine
Absolument.
Manière.
Absolument. Alors, dans le cadre de la pièce que vous venez d'évoquer, Le songe d'une nuit d'été, là, c'est la forêt d'Athènes.
C'est ça.
On est vraiment dans un cadre
en Grèce,
antiquisant. Oui. Mais il y a aussi tout un folklore, une magie, puisque c'est la féerie qui intervient. Mais vous parlez de l'Italie et c'est vrai que bon nombre de pièces de Shakespeare se passent en Italie. Il faut dire que à l'époque, il était très difficile de parler de l'Angleterre. Donc Shakespeare en parle toujours d'une manière un petit peu détournée. Il y a la censure qui est là. Toutes les pièces doivent être lues par le maître des menus plaisirs, qui va autoriser ou non ces pièces. Et donc le fait de parler de l'Italie, ça permet d'avoir un regard un peu détourné sur l'Angleterre. Derrière l'Italie, il y a toujours l'Angleterre, mais c'est indirect.
Et toujours, et ça n'est pas pour donner raison aux amateurs de Francis Bacon, aux partisans, si je puis dire, Francis Bacon, mais toujours quand même des jeux sur le langage, des glissements de sens, des assonances, toutes sortes de jeux de mots même, on peut le dire, chez Shakespeare, qui nous échappent un peu, il faut bien le dire, dans la traduction.
Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que c'est une langue extrêmement difficile à traduire, parce que c'est une langue d'abord très idiosyncratique, vraiment, qui est propre à Shakespeare.
C'est un univers à part entière.
Absolument. C'est Hugo qui parlait de monde de Shakespeare, l'homme océan, c'est un monde.
Le premier grand admirateur en France de Shakespeare. Hugo,
Voilà, c'est quand même lui qui a contribué à rétablir certaines vérités. Mais c'est vrai que cette langue, c'est une langue à la fois truculente, extrêmement fine, et c'est la polysémie de la langue qui est formidable. Bien sûr, alors il y a les jeux de mots, rabelaisiens, c'est aussi vraiment parfois très érudit, comme dans une pièce, je pense à Love's Labour's Lost, Peine d'amour perdue. Il y a un certain humour aujourd'hui qu'il est difficile de rendre sur scène. Certaines scènes sont coupées parce qu'il y a des allusions à ce qui se passait à l'époque, qu'on a perdu au niveau culturel. Donc il faut aujourd'hui réadapter. Mais cette langue, de par sa polysémie, crée justement cette fascination, ce mystère.
Vous travaillez, vous, sur ces comédies shakespeariennes. Pourquoi sont-elles moins jouées et moins connues en France? C'est étonnant. Les tragédies, on les connaît quand même. Bon, bien sûr, Roméo et Juliette,
oui,
mais pas seulement. Comédie, c'est un peu plus difficile pour nous, peut-être.
C'est tout à fait étonnant, mais je crois que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ce parti pris français d'intellectualiser absolument Shakespeare, que les comédies sont très très jouées en Angleterre, que ce soit La Mégère...
Y compris par des troupes amateurs, il faut le dire.
Absolument, et puis il y a une tradition de théâtre amateur dans les universités.
Bien sûr,
C'est très très important dans tous les campus. Et c'est vrai qu'en France, peut-être finalement qu'on prend trop Shakespeare au sérieux. Alors on a raison de le prendre au sérieux parce que c'est une œuvre magnifique, mais il faut bien voir que Shakespeare, même au cœur de ses tragédies, a mis de l'humour, a mis des scènes extrêmement drôles.
C'est jamais d'un seul tenant, c'est jamais d'une même eau une tragédie ou une comédie. de Shakespeare, contrairement à ce qu'on pourrait trouver par exemple chez nos très grands auteurs à nous, hein, chez Corneille ou chez Racine par exemple, où l'on est dans un univers beaucoup plus homogène incomparablement. Oui. Là, c'est l'hétérogénéité même finalement Shakespeare. Il y a, si vous me passez l'expression, toujours à boire et à manger, c'est ce qui est étonnant. Il y a des ruptures de rythme, il y a des ruptures de construction, c'est assez... La pièce la plus, je parlais de pièce hallucinée tout à l'heure, la plus inouïe, c'est La Tempête peut-être, justement.
Mais c'est vrai qu'on est dans une hybridité permanente avec Shakespeare. Hein. Il y a l'image du motley, le vêtement qui sert à caractériser le fou, finalement, ça irait bien pour définir le théâtre de Shakespeare. Alors, La Tempête, c'est une pièce absolument magnifique, c'est une des pièces de la fin. Certains critiques...
Pièce de la maturité, on pourrait dire.
Oui, voilà, pièce de la maturité. Certains critiques ont vu dans cette pièce une pièce testament, hein, puisqu'on a pu dire que Prospero, hein, ce mage magnifique, exilé dans son île, serait une image du dramaturge. Et d'ailleurs, hein, à la fin, il rompt sa baguette, il jette son livre, son grimoire à la mer. Donc c'est vrai que ça donne une résonance particulière à cette pièce, qui n'est pas tout à fait la dernière, cependant, que Shakespeare a écrit, puisqu'il a ensuite écrit des œuvres en collaboration. Oui. C'est la dernière qu'il a écrit seul. Oui. Mais c'est vraiment une pièce qui fait rêver. Vous parliez tout à l'heure de la thématique de l'exil, du voyage.
Bien sûr, voilà. À propos de John Floriot, mais en l'occurrence, cet exil, il est prégnant dans La Tempête. On est dans un univers qui devient magique, d'une certaine manière, un peu merveilleux, comme dans une autre pièce. Je lis l'article consacré au conte d'hiver dans le Dictionnaire amoureux, les dernières lignes. Hymne à l'artifice et au merveilleux, le conte d'hiver est résolument maniériste dans son esthétique et loin de tout manichéisme. La pièce séduit toujours les éternels désenchantés que nous sommes, avides de comédie, de merveilleux, pour ne pas dire de miraculeuse résurrection. Il y a tout ça, évidemment, dans ces pièces de la fin.
Oui, absolument.
Là.
On est là dans ce qu'on a appelé les romance plays. Il y a un type d'écriture un petit peu particulier qui caractérise ces dernières pièces, où l'idée de rédemption, l'idée du pardon est très importante. Et puis, dans ces dernières pièces, Shakespeare privilégie le merveilleux. Et je pense que c'est aussi lié aux conditions de jeu de l'époque. C'est-à-dire qu'on a parlé du globe tout à l'heure, théâtre à ciel ouvert. Mais à partir de 1608, Shakespeare a un nouveau lieu, le théâtre des Blackfriars, qui est un théâtre fermé où des effets spéciaux tout à fait différents et beaucoup plus élaborés sont possibles. Et ça explique donc l'importance du merveilleux dans les dernières pièces.
Alors on n'a pas fini de parler de Shakespeare ces temps-ci, Sophie Carry. Sachez que dès demain, la Comédie Française propose un premier hommage à Shakespeare par la troupe de la Maison de Molière après la représentation de Roméo et Juliette. Donc ça, c'est demain dès 14h, à la fin de la représentation de 14h, donc à partir de 16h30, à la Comédie Française. Arte nous propose une programmation spéciale du 24 au 28 pour ce 400e anniversaire de la mort de Shakespeare. Ça s'appelle Le génie William Shakespeare. Là, au moins, les choses sont dites et annoncées. Et alors, une floraison de publications, des numéros spéciaux dans la presse. J'ai là notamment le très beau hors-série du Point pour ce 400e anniversaire. Ça s'appelle Shakespeare, l'éternel magicien. Il y a un grand Shakespeare illustré de Caroline Guillot qui sort aux éditions Duchesne. Et puis, parmi tous ces ouvrages, alors là sur le mystère Shakespeare, je ne vais pas y revenir, le maître livre, si je puis dire, la Bible de ce 400e anniversaire, le dictionnaire amoureux de Shakespeare de François Larocque, édité comme il se doit aux éditions Plon. Merci beaucoup.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans une minute, la suite de Cœur de l'Histoire, et vous répondrez Franck Ferrand à la question de Florian qui s'interroge sur l'origine de l'éclairage au gaz.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et c'est Florian qui vous interpelle aujourd'hui, Franck Ferrand, via la page Facebook de l'émission. Florian vous demande quelle est l'origine du lampadaire et de l'éclairage au gaz.
Alors l'éclairage au gaz est très ancien. Figurez-vous que les Chinois l'utilisaient, enfin ils utilisaient le gaz naturel comme combustible pour s'éclairer dès le 4e siècle avant notre ère. Mais l'éclairage au gaz tel qu'on le conçoit de manière urbaine, alors ça c'est beaucoup beaucoup plus récent. Il faut attendre le 19e siècle pour voir arriver les fameux réverbères au gaz dans les grandes capitales capitale européenne. À Paris, c'est en 1829 qu'on éclaire la première rue. Vous savez quelle a été la première rue éclairée au gaz à Paris? C'était la rue de la Paix. Ça paraît assez logique, en plein cœur de la capitale. L'éclairage au gaz sera ensuite remplacé. Vous savez qu'il y a eu cet incendie terrible de l'Opéra Comique en 1887 qui devait coûter la vie à 84 personnes. Et c'est ce qui va inciter les autorités peu à peu à remplacer les réverbères à gaz par des éclairages électriques qui vont se développer à partir de la Belle Époque. Je voulais vous signaler aussi, on a parlé beaucoup de Shakespeare, mais je voulais signaler que ce week-end, c'est-à-dire demain samedi et dimanche, aux arènes de Nîmes auront lieu les grandes reconstitutions. Vous savez, c'est la 7e édition consacrée cette année à Cléopâtre. On n'est jamais très loin de Shakespeare, somme toute. Et ça s'appelle les grands jeux romains. C'est à partir de 15h30 demain.